Il a fait une job exceptionnelle hier pour ce qui est de la couverture de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Lui et bien sûr toute l'équipe d'LCN. Marc-André Leclerc est analyste politique justement à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Il est au bout du fil. Marc-André, bon matin.
Bonjour.
Bravo pour la job à toi et toute l'équipe d'LCN hier, Marc-André. Grosse journée.
Oui, ça fait un gros dimanche. Mais je pense que c'est une série de longues journées qui s'en viennent en politique fédérale.
Oui, c'est... comme on dit en Québec, tu chômeras pas, mon ami, mais vous avez fait une super job. Bravo.
Merci.
Victoire, bon, sans surprise probablement pour Mark Carney. Par contre, on pourrait même peut-être utiliser des termes comme dégelé ou varlope. Est-ce que ça, c'est surprenant qu'il a gagné à ce point-là de façon dominante?
Oui, c'est un peu surprenant. Je pense pas que personne vraiment dans les prédictions avait mis 86% pour M. Carney, seulement 8% pour Chrystia Freeland. Vraiment, les membres du Parti libéral du Canada, vraiment, ils ont, dès le départ, hein, ça s'est joué dans les appuis avec les ministres, les députés qui ont appuyé M. Carney. Et ils ont vu, ben regardez, là, c'est avec lui qu'on a la meilleure chance de remporter la prochaine campagne. Fait qu'on va l'appuyer. Mais il a remporté au-delà également de 86% des points remportés hier. C'est que M. Carney, je regardais ça hier soir, il a remporté dans toutes les circonscriptions, les 343, là. Même la circonscription de Chrystia Freeland, M. Carney a terminé en première position. Même la circonscription de Burlington, là, de la troisième candidate, Karina Gourde, il a remporté. Donc, c'est vraiment une victoire décisive et ça permet vraiment à M. Carney d'avoir les deux mains sur le volant, d'avoir les coups de frange. Donc, maintenant, il peut passer ses idées, il peut passer son plan de match par rapport au prochain jour, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, vraiment, là, pour lui, c'est la meilleure façon de garder le Parti libéral du Canada uni. Là.
Marc-André, est-ce qu'on peut analyser que dans le contexte économique et politique particulier, notamment avec les États-Unis, le Parti libéral a pris le pari de l'unité en se rangeant fortement derrière Mark Carney?
Oui, de l'unité. Également, ce que je dirais, entre guillemets, un peu de la voix plus facile, là. Genre ils ont vraiment pas pris de risque, c'était lui le meneur dès le numéro un. Puis ça fait plusieurs années hein, qu'on entend donc de M. Carney, est-ce qu'il va se présenter comme député, est-ce qu'il va accéder, puis il semble que c'était ça le plan, d'accéder au Conseil des ministres comme ministre des Finances pour remplacer Chrystia Freeland avant les fêtes. Donc ça fait plusieurs années qu'il est comme vénéré dû à son CV et que dans les rangs libéraux on dit oh mon Dieu, ça nous prend M. Carney là. Fait que finalement ils l'ont, c'est son moment à lui dans un moment où ce qu'il arrive quand même avec plein de défis, un moment qui est très particulier. On s'en jase tous les semaines avec ce qui se passe du côté de la frontière. Et hier, quand je regardais ça, puis je voyais les résultats, 86%, 8% pour Mme Freeland et 3% pour les deux autres candidats chacun, tu te dis, ben pourquoi on a fait une course, là? Pourquoi rendu, là? Pourquoi pas à la fin janvier, début février, après les mises en candidature, la date limite pour devenir membre était pour pouvoir voter était le 27 janvier. Une fois qu'on a reçu les listes, une fois qu'on a vu un peu l'état des choses, le financement, ils ont quand même fait perdre du temps et de l'argent à leur parti, là, ces trois candidats-là. Pourquoi on n'a pas tout simplement baissé les armes? Parce que c'est quand même un peu... Même si on se lance dans une course, on peut augmenter son profil. Là. Exemple pour Mme Karine Gourde, qui était leader parlementaire, il reste que 3%. C'est assez gênant.
Mais ça se peut-tu que, pour ce qui est de la course, ce soit juste que... Parce que déjà, le fait que Mark Carney va devenir un premier ministre non élu, ça fait réagir certaines personnes. Puis que ça se peut-tu que c'est pour rendre un petit peu plus légitime? Parce que, j'imagine, si on avait juste dit sans course, c'est lui le nouveau chef, donc le nouveau premier ministre. Là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y en a qui auraient hurlé. Là.
C'est certain que la course est une bonne chose pour M. Carney, pour le tester, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'il n'a pas été testé. Avec des candidats qui ne faisaient vraiment pas le poids, avec seulement deux débats, où c'est pas passé grand chose, où il y a aucune attaque. Également, M. Carney, là, au Québec, là, si je me trompe pas, M. Carney a fait deux entrevues. durant toute la course à la chefferie au cours des deux derniers mois. Quand on regarde ça, M. Cornet a fait plus d'entrevues dans des médias américains et britanniques que dans des médias québécois ou canadiens. Fait que, oui, effectivement, normalement, une course à la chefferie permet d'avoir un chef qui est testé, qui a passé l'épreuve du feu. Cependant, ce matin, et ça, si j'étais stratège libéral, ça, pour moi, ce serait un gros point d'interrogation. On a tellement protégé M. Carney durant la course. Il n'y a tellement pas eu de débat ou d'attaque. Ils n'ont pas un chef qui est testé, là. Et comprenez-moi bien, c'est M. Carney était gouverneur de la Banque du Canada, également la même chose du côté de la Grande-Bretagne. Cependant, c'est la Banque du Canada, c'est des institutions comme la Cour suprême ici au Canada qui sont réputées, ce qui fait un peu notre singularité par rapport aux États-Unis sur notre système bancaire. Mais à la Banque du Canada, là, tu prends pas des décisions comme le premier ministre à toutes les cinq minutes, là. À la Banque du Canada, ils savent déjà dans huit semaines, on va faire le point sur l'inflation, sur l'économie, sur notre politique monétaire, là. Ils sont capables, là, quand tu parles avec les gens de la Banque du Canada, ils sont capables de dire exactement, là, dans 12 mois, là, quelle annonce qu'ils vont faire sur quel point précis. Fait, c'est pas la même chose, là. C'est vrai que M. Carney a un CV qui est intéressant. Cependant, c'est pas la même chose d'être gouverneur de la Banque du Canada et d'être premier ministre du Canada. Donc, pour lui, là, tout va arriver rapidement, tout en étant également chef d'un parti. Il faut qu'il ait les gens, ces 153 députés-là. Ouais. Oui, il connaît les principaux, mais il connaît pas tout le monde, là.
Justement, Marc-André, est-ce qu'on peut parler d'un vent nouveau pour le Parti libéral du Canada sous Mark Carney, ou c'est la même gang puis le même parti qu'avec Justin Trudeau?
Ben, c'est le défi. Une question super intéressante, parce que c'est le défi de M. Carney. Un petit exemple pour figurer tout ça, c'est jeudi soir dernier, M. Carney est à Montréal, il fait un rassemblement. Fait qu'il est devant, il est au podium. Derrière lui, il y a Stephen Guilbeault, Jean-Yves Duclos et Mélanie Joly. Pendant les cinq premières minutes, M. Carney nous parle de changement. Et puis, il répète ça. Cependant, c'est quand même un peu ironique de voir M. Carney nous parler de changement quand derrière lui, il y a Stephen Guilbeault, Jean-Yves Duclos, Mélanie Joly qui sont là depuis 8-9 ans comme ministre dans un gouvernement. Également, hier soir, durant son discours, M. Carney dit qu'il allait changer de position sur la taxe sur le carbone et les gains en capital. Il y en a un dans la salle qui n'a pas applaudi, c'est Justin Trudeau. Ouais. Et la caméra était sur lui. Donc, on essaie justement. M. Carney va essayer de ramener le Parti libéral du Canada plus au centre, parce que M. Trudeau est vraiment allé très à gauche en volant les idées du NPD. Là, M. Carney veut ramener le parti plus au centre en volant les idées de Pierre Poilievre. Donc, c'est la beauté du Parti libéral du Canada. C'est un caméléon, le PLC, là. Eux autres sont capables, au gré des premiers ministres, des chefs, sont capables, au gré du vent, de changer comme ça d'orientation. Fait qu'on va essayer, ça va être beaucoup. M. Carney, puis je sais qu'il y a eu des débats à l'interne, de dire est-ce qu'on utilise le mot changement. Lui, il va pouvoir l'utiliser. Ça va être intéressant de voir son équipe, ceux qui sont là depuis 9 ans, comment eux vont pouvoir le faire. Peut-être une piste de solution là-dessus. C'est hier, M. Carney a dit nouvelle menace, nouvelles idées. On va essayer de jouer ça. Mais est-ce que ça va paraître vrai auprès de la population, des électeurs? Ça va être le grand défi, là. Comment, tu sais, avec la menace de Donald Trump, sur le fait qu'il faut être résilient, faut changer notre économie, faut changer les choses, les façons de faire. Est-ce qu'on peut faire confiance à ceux qui étaient là au cours des 9 dernières années? Ça va être ça la grande question. Et c'est pour ça que les conservateurs de M. Poilievre vont utiliser beaucoup, ils ont déjà commencé à faire cette semaine, un quatrième mandat. Hein. Donc, c'est pas pour eux, les conservateurs vont essayer de dépeindre ça comme étant un quatrième mandat de l'équipe libérale et non pas le premier mandat de Mark Carney.
Marc-André, est-ce que ça va être suffisant pour les conservateurs de seulement parler d'un quatrième mandat pour aller chercher les votes nécessaires à être élu le prochain gouvernement, où on a besoin du côté de Pierre Poilievre de prouver qu'il peut être un homme d'État qui va tenir tête à Donald Trump?
C'est certain que M. Poilievre va devoir faire les deux. T'sais, d'un côté, où faut-tu... Tu peux attaquer ton adversaire. La meilleure façon d'attaquer ton adversaire, c'est parler de cette équipe-là des 9 dernières années. C'est sûr que le fait que Mark Carney était conseiller à M. Trudeau et non pas conseiller des ministres, pour certains, c'est de dire, ouais, mais là, il était pas là. Cependant, M. Carney, on le sait, il a beaucoup conseillé Justin Trudeau au cours des dernières années. Mais d'un autre côté, M. Poilievre également, là, on va tomber en séries éliminatoires. C'est tout ce qui s'est passé avant, là, la saison régulière, on s'en fout un peu, là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est d'arriver, puis également de se présenter, de montrer qu'on est capable de faire face à Donald Trump. Mais Tu sais, moi, on a beaucoup, puis on analyse beaucoup, puis tu sais, je suis là-dedans aussi à tous les jours, mais ça va être quoi la question de l'urne, là? Bon, puis on dit souvent, ça va être pas, qui sera la meilleure personne pour faire face à Donald Trump? Moi, je pense pas que c'est directement ça. Moi, je pense qu'il faut se tasser de quelques degrés, là, à gauche ou à droite, peu importe, pour trouver la question de l'urne, parce que il n'y a pas personne qui peut faire face à Donald Trump. Tu peux pas négocier présentement avec M. Trump quand il fait des erreurs de fait, quand tu vois qu'il s'est mélangé sur les tarifs. Une journée, il y en a, l'autre journée, il n'y en a pas. Puis il n'y a pas de bonne raison pour en mettre, il n'y a pas de bonne raison pour en enlever. Cependant, c'est qui a le meilleur plan pour être résilient, pour faire face à cette menace-là? Et moi, hier, j'étais surpris par la faiblesse du discours économique de Mark Carney. Ça fait 2 mois que je le suis, mais hier, c'était une mot de salade quand il nous dit une économie pas 13 au Canada pour les 13 provinces, territoires. Je comprends ce qu'il veut dire. Cependant, je suis pas sûr que c'est réaliste. L'économie québécoise n'est pas la même que celle en Saskatchewan, n'est pas la même que celle en Colombie-Britannique. Fait que M. Carney, qui arrive là comme ça avec un CV économique, il faut falloir qu'il pense là, tu sais, de la théorie à la pratique et démontre ça également à l'électorat.
Marc-André, à quel point ça nous prend des élections rapidement dans le contexte et la situation politique et économique qu'on connaît en ce moment? Je trouve que c'est assez délicat d'avoir un premier ministre non élu. J'imagine juste les commentaires ou la liste de commentaires que Donald Trump est en train de préparer là, par rapport au Canada et un premier ministre non élu. Ça nous prend-tu des élections très rapidement?
Oui. Malheureusement, ça arrive au pire moment. Tout ça aurait dû être fait l'automne dernier. On aurait dû se préparer. Les conservateurs ont toujours été clairs. Après ça, le Bloc a embarqué. Le NPD, eux, sont aussi stratégiques qu'une table à pique-nique. Fait qu'ils n'ont jamais embarqué. Puis là, présentement, c'est eux qui vont payer le prix de ça. Mais oui, ça prend des élections à court terme. C'est pas mal ça, le plan de M. Carney. Pourquoi, en plus, pour M. Carney, il n'y a pas d'avantage au retour de la Chambre pour lui le 24 mars? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'est pas élu. Donc, ce que ça veut dire, regardez bien l'image. Le jour 1, là, le 24 mars, il faut lire un discours du trône. C'est lu par le gouverneur général, Mary Simon, dans la Chambre du Sénat, et à sa gauche ou à sa droite, selon le plan de caméra, le premier ministre est assis là. Mais M. Carney, il n'est pas élu, il ne pourrait pas être assis à côté de Mme Simon. Première période de questions, Pierre Poilievre se lève devant lui, il n'y a pas de Mark Carney. Fait que, comment tu peux, pour lui, dire hey, « je suis en contrôle, je vais faire face à Donald Trump » et de pas être présent dans les moments marquants du retour de la Chambre, là, dans un moment critique. Là. Fait que M. Carney n'a aucun intérêt à revenir en Chambre, du fait en plus qu'il n'est pas élu et d'être premier ministre longtemps. Cependant, ce qui va arriver, c'est que là, M. Carney, on veut faire les choses extrêmement rapidement. On parle de, il veut être assermenté, on parlait de mardi, mercredi, là, c'est peut-être plus jeudi, vendredi, là. Parce que, normalement, une transition, là, c'est 2-3 semaines. Là, on nous dit qu'on veut faire ça en 2-3 jours, là. Mm-hmm. Fait qu'il y a une grosse pression sur la machine. Toutes ces décisions-là vont se prendre dans les premières rencontres de la journée, aujourd'hui. Et là, après ça, pour M. Carney, c'est d'aller voir la gouverneure générale, demander de dissoudre le Parlement. Mais là, également, il faut voir qu'il regarde le calendrier. Là. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il déclenche ça en fin de semaine, le 15-16? Est-ce qu'il déclenche ça le week-end suivant? Et tout en gardant également qu'il y a Pâques, là, dans le coin, tu sais, du 20, 21, 22 avril. Fait que là, tu fais-tu un vote au lendemain de Pâques? Tu peux-tu vraiment avoir le BVA durant ce long week-end-là? Fait que c'est pour ça que ça nous amène probablement à une élection plus, tu sais, à la fin avril, début mai. Okay. Donc, également, M. Carney va devoir jouer avec le calendrier. Mais je voudrais qu'entre aujourd'hui et le 23 mars, il va y avoir déclenchement d'une élection générale au pays. Là.
Marc-André, en terminant, est-ce que c'est l'élection la plus importante de l'histoire du Canada dans le contexte géopolitique?
Ben, moi, j'ai toujours de la difficulté à dire la plus importante, parce qu'à chaque fois qu'on sort en élection, on dit ça, hein, c'est la plus importante. Dans le passé, il y en a eu également. Là,
il y en a eu des importantes pour contrer les méchants souverainistes.
Ouais, c'est ça. Effectivement, il y a eu d'autres crises d'unité nationale. Elle, également, à l'époque, j'imagine, j'étais pas né, mais à l'époque de la première, de la deuxième guerre, j'imagine qu'on disait que l'élection en effet était importante. On a vécu. Oui, mais c'est une élection qui, c'est sûr, qui est importante. Mais, tu sais, comme, je veux dire, comme démocrate que je suis, pas en tant que démocrate américain ou peu importe, ça, c'est pas ça, mais en tant que démocrate, de personne qui aime la démocratie, le fait que M. Trudeau a quitté, il y a un nouveau chef. Présentement, on a 2 partis hyper compétitifs et la population, maintenant, va avoir un choix. et ça va être aux partis politiques, aux chefs de ces partis-là, aux équipes, de présenter ça à un moment hyper important. Fait que là, présentement, les gens vont avoir un choix, bien sûr, entre les deux partis qui peuvent former, mais également, il y en a plusieurs autres. Mm-hmm. Mais à un moment aussi important, il n'y a pas aucun des deux partis qu'on sait que ça va être gagné d'avance. C'est vraiment, chacun va offrir son offre et la population doit s'exprimer à un moment, oui, qui est très important pour la suite des choses.
Marc-André Leclerc est analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Et on apprécie toujours les jasettes avec Marc-André. Merci pour ça ce matin.
Merci, bon lundi, au revoir.
À bientôt. Toujours très, très, très intéressant de jaser avec Marc-André Leclerc. Et encore une fois, job formidable hier à la couverture de cette journée, cette soirée là, de course à la chefferie.
Ah, vraiment, Marc-André est directement sur les bons points. T'sais, je retiens, là, il a parlé de plein de choses intéressantes, comme des élections qui auraient dû se produire à l'automne, justement, pour être prêt à l'arrivée de Donald Trump. Également, j'aime bien quand il parle d'un parti libéral caméléon. Hein. C'est l'effet d'un parti qui peut se positionner autant centre-gauche qu'un centre-droit, que complètement au centre. On est capable de modifier nos politiques, ce que d'autres partis ne peuvent pas faire.
Mais même plus que ça, ce qu'il a dit par rapport à ça, c'est voler des idées au NPD oui. pour aller à gauche. Voler des idées des conservateurs pour revenir à droite.
C'est drôle parce que j'avais une discussion la semaine dernière quand je suis allé au fameux rassemblement Troisième lien avec Mario Vaillancourt, l'ancien journaliste de TQS, qui est maintenant justement le directeur des communications au ministère des Transports, puis il disait, souvenez-vous, quand l'ADQ a fait une montée drastique au niveau des élections, il est tombé l'opposition officielle, les stratèges de Jean Charest, ils ont dit « Hey, regarde, nous autres, on est parti libéral, on va aller voler 3-4 idées à l'ADQ, on va le descendre, ce Dumont-là. » Fait que c'est un peu la même affaire qui est en train de se produire au Canada. Les stratèges ont dit à Mark Carney, « Coup de bain, les taxes, là, enlève-nous ça. » On vient justement de lancer un beau tas de cailloux dans le cours du Parti conservateur avec ça. Donc, il y a nécessairement toute cette stratégie-là qui est derrière ça.
7h42 minutes à Rage Against le matin. On se laisse le temps d'une pause publicitaire. Ensuite, on revient avec le deuxième indice, deuxième extrait du concours Three Days Grace et Volbeat. Et Jeff, samedi, t'as assisté à une annonce historique pour la région?
Annonce historique, 3,25 milliards pour le chantier Davie. Un contrat pour construire le plus gros brise-glace de l'histoire du monde.
Tu nous présentes ça?
Je vous présente ça.
On s'arrête 2-3 minutes.